très bel après-midi sur France Culture. Tout de suite, de bon droit, nous retrouvons Antoine Garapon.
Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice qui va continuer son panorama sur les métiers de la justice en s'intéressant aujourd'hui aux personnes sur main de justice, ou plus exactement les gens qui s'en occupent, avec Anne de Vraise et Bertrand Kaczmarek. Après avoir donné la parole à des magistrats la semaine dernière, cette seconde émission va se pencher sur les métiers de la justice, d'autres métiers qui en charge l'accompagnement de personnes. Cela va des familles qui sont l'objet d'une enquête sociale jusqu'aux personnes incarcérées. En passant par les jeunes en foyer, tous ces gens-là sont encadrés par des personnels du ministère de la justice. Alors qui sont ces gens? Quels sont ces métiers qui s'occupent de cette catégorie de population que dans la justice on appelle des gens sous main de justice? Alors l'expression est un peu vieillotte, mais elle est quand même bien expressive, c'est-à-dire des gens qui sont retenus, qui sont sous enquête, qui sont accompagnés. Comment est-ce que ces travailleurs sociaux ou ces personnels pénitentiaires vivent l'exercice d'une sorte de part de souveraineté sur autrui qui leur est conférée par leur fonction? Quelles sont leurs aspirations? Quelles sont leurs déceptions? Voilà quelques questions que on va aborder aujourd'hui, cet après-midi, avec Anne de Vraise, qui est actuellement directrice générale adjointe déléguée à l'enfance, la famille et la jeunesse du département du Nord, qui est un très gros département. Et Anne de Vraise a été responsable d'un centre d'hébergement pour adolescents sous mandat judiciaire, puis elle a dirigé l'école nationale de la PJJ, de la protection judiciaire de la jeunesse. Et pour parler avec elle, Bertrand Kaczmarek a été directeur adjoint de maison d'arrêt à Saint-Étienne et à Grenoble, et il est aujourd'hui professeur de philosophie dans le sud de la France. Bonjour à tous les deux. Anne de Vraise, est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos éditeurs, dire quelques mots de votre parcours?
Oui, bien sûr. Donc je suis donc DGA, directrice générale adjointe en charge de l'enfance, la famille et la jeunesse au département du Nord. J'ai une longue expérience de l'exercice des fonctions de direction en protection de l'enfance, comme vous l'évoquiez. J'ai commencé en 98, après un parcours à l'IEP de Paris, Sciences Po, rue Saint-Guillaume. Que j'ai quitté encore relativement jeune, et c'est un peu par hasard que j'ai passé le concours de directeur au ministère de la Justice.
Oui, parce qu'il faut expliquer comment on passe de Sciences Po au concours de directeur de direction de la PJJ.
Eh bien, d'abord, il faut préciser que j'avais le sens du service public chevillé au corps et que j'avais fait la section service public rue Saint-Guillaume. Et que je m'intéressais vraiment à la question de la relation d'aide au public vulnérable d'une manière générale. J'avais fait beaucoup de bénévolat dans des associations parisiennes de soutien aux personnes âgées, à la jeunesse. Et c'est vraiment plutôt vers cette voie que je me suis orientée, mais sans vraiment connaître le métier.
C'est indispensable d'avoir fait un peu de bénévolat, d'y avoir goûté un petit peu au travail social avant de s'engager, non ?
Bah, j'ai pu vérifier que j'étais beaucoup plus intéressée vers les métiers d'éducation que vers le soutien d'aide sociale et administrative, à ce moment-là en tout cas de ma vie,
c'est
et
ça.
Très jeune.
C'est ça.
Voilà. Et puis, je dois préciser aussi que le ministère de la Justice nous permettait d'entrer, après concours, dans une année de formation à l'exercice des métiers de direction. C'est d'ailleurs, je crois, à ma connaissance, la seule formation qui existe. Toujours, hein, d'ailleurs, en tout cas une formation initiale à l'exercice des missions de protection de l'enfance.
Oui,
en
c'est
tout
ça.
Cas, dans les fonctions de direction.
C'est ça. Parce que c'est pas évident, quand on a fait un peu de bénévolat avant, de se retrouver directrice d'un foyer, parce que c'est ce qui vous est arrivé, un foyer de jeunes délinquants, pour faire court, quoi, de jeunes qui ont des problèmes avec la justice, souvent des problèmes pénaux. C'est pas une vie de tout repos, ça, non?
Absolument. Alors moi, j'avais, en quittant la Sciences Po, la ferme intention d'être dans l'action. Voilà, c'était plutôt mon tempérament. J'avais besoin de trancher là, avec toutes ces années d'études et d'être vraiment très efficace et d'être dans l'action. Donc, j'ai pas été déçue, hein, oui. Je dois bien le dire, puisque d'emblée, j'ai pris ces fonctions que vous évoquez. Mais après un an de formation en alternance, oui. Et ça, c'est extrêmement important, parce que j'ai eu la chance d'être formée au Centre national d'études et de recherche de Vaucresson à l'époque, oui. Qui était un lieu d'élaboration, de croisement de savoirs, qui d'ailleurs rassemblait les magistrats, les éducateurs, les directeurs, à la fois dans une dimension d'échange d'expérience et de recherche. Et dans le cadre de cette formation, j'ai pu du coup me frotter à des personnages tout à fait charismatiques, très emblématiques du monde éducatif de la justice, et qui sont devenus d'ailleurs mes mentors ensuite, ce qui m'a permis quand même pendant une année de m'acculturer à ce qu'était ce monde de la justice des mineurs, et puis à me projeter comme ça dans ces fonctions de direction, avec des allers-retours en stage avec une directrice de stage qui d'ailleurs était un personnage tout à fait incroyable. Qui avait été la première éducatrice en ISES à l'époque, les institutions, les maisons de correction, les foyers de redressement qui n'étaient pas mixtes. Oui. Et elle avait été la première éducatrice en France à investir ces lieux. Ensuite, elle était devenue directrice et c'est elle qui m'a formée sur cette année. Et c'était tout à fait passionnant.
C'est important la formation parce qu'on s'en souvient pratiquement, on s'en souvient toute la vie professionnelle.
Absolument. Moi, je regrette d'ailleurs aujourd'hui que peu de professionnels avec lesquels je travaille, très compétents, très motivés, n'aient quand même pas cette possibilité de bénéficier d'une formation initiale.
Oui. Alors Bertrand Casmarec, vous, c'est votre itinéraire, il y a des points de ressemblance ?
Oui, enfin, si, sauf sur le départ, pardon, parce qu'en fait, je suis parti complètement au hasard, en quelque sorte. Je suis rentré en fac de droit, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc, on m'a poussé là un peu en me disant qu'il y aurait du travail. Et puis, par contre, pendant les études, un ami qui était en fac d'histoire, c'était les dernières années du service militaire, donc est parti faire son service militaire, et lui intervenait dans le milieu associatif en maison d'arrêt. Et donc, en parallèle de la fac, il m'a demandé de le remplacer. Et du coup, moi, j'étais au sein d'une fac de droit que j'appréciais, mais vraiment sans aucune perspective professionnelle. Et j'ai commencé à aller chaque semaine en maison d'arrêt. Et là, vraiment, ça c'est l'horizon s'est vraiment clarifié, parce que par rapport à l'idée que j'avais du droit, c'est-à-dire une procédure très abstraite et quelque chose plutôt de l'ordre de l'écrit, l'intérêt de la relation au pénitentiaire et aux détenus était vraiment un monde de relations, un monde humain extrêmement prenant. Et donc, à partir de là, en fait, moi, j'ai souhaité intégrer l'école. Donc, je suis rentré à l'ENAP, qui est l'école nationale d'administration pénitentiaire, qui est à Agen, où on est formé à peu près pendant 2 ans et on alterne stage et puis plus théorique à l'école. Mais la vraie formation, pour prolonger un peu ce que disait Anne Devrez, pour moi, ça a été vraiment le premier poste à Saint-Étienne, puisque j'étais à la maison d'arrêt de la Talaudière. Et en fait, c'est les personnels qui travaillent là-bas sont des gens qui... Il y a une vieille tradition, c'était des gens qui étaient avant dans les mines, ou leur père était dans les mines, à Manu France, et puis ensuite qui sont arrivés dans la pénitentiaire. Donc, il y a vraiment une qualité des personnels qui est assez remarquable, et même si c'est un peu paradoxal, moi, au début, c'est vraiment les personnels de surveillance qui m'ont formé, puisque j'ai débarqué un peu à 24 ans, je crois, en maison d'arrêt, en ayant très, très peu de connaissances, enfin, des connaissances théoriques, mais humainement, en étant complètement bleu, comme on dit.
Bah oui.
Et c'est vraiment eux qui m'ont formé à ce qu'était la relation avec les personnes détenues.
Et alors, première découverte, Bertrand Casmarec, vous débarquez dans une prison, vous avez peut-être fait des stages avant, vous êtes directement en position de responsabilité, puisque vous êtes sous-directeur.
Oui, alors c'est pour le coup, c'est la, je crois vraiment la fragilité. Enfin, c'est, s'il y a des élèves qui écoutent pour essayer de réfléchir à ça, c'est pour tous les métiers un peu de les métiers d'encadrement, c'est vraiment une question parce qu'on débarque, on n'est absolument pas légitime, je crois. On n'est pas légitime non seulement parce qu'on a fait que quelques années d'études, mais surtout humainement. Moi, je venais d'un milieu social, enfin de classe moyenne plutôt protégée, disons, et on n'a aucune légitimité humaine pour faire face en quelque sorte aux expériences qu'on rencontre. Donc l'enjeu, ça, c'est de, en quelque sorte de rester dans une espèce de, au début, d'humilité par rapport aux décisions qu'on prend, parce que y a vraiment une enfin, l'imposture, le mot serait un peu fort, mais quand même, il faut en quelque sorte petit à petit se faire accepter et par les personnels et par les détenus. La vraie découverte, oui. D'ailleurs, puisque j'avais quand même entamé un peu via le monde associatif la rencontre des détenus, mais la vraie découverte pour moi en travaillant dans l'administration pénitentiaire, c'était le rapport au personnel, aux travailleurs sociaux et surtout aux surveillants. Et là, c'était quelque chose auquel j'avais pas du tout réfléchi avant et qui est une partie extrêmement intéressante et importante du métier.
Alors, Anne Devraise, même question. Vous débarquez dans un foyer de jeunes délinquants. Vous êtes jeune, vous avez, je sais pas, 23, 24 ans peut-être.
Oui.
C'est aussi un drôle de milieu quand même. Vous vous sentez légitime ?
Alors, en ce qui me concerne, j'avais grandi, ma scolarité, j'avais faite dans des milieux plutôt défavorisés. Donc, j'avais comme ça déjà rencontré cette question de la jeunesse dans la transgression. Mais effectivement, le milieu du foyer de justice, c'est un milieu tout à fait singulier. Et je rejoins tout à fait ce que dit Bertrand sur l'humilité nécessaire et toute la démarche de construction de la légitimité. Il suffit pas sur un organigramme de se situer au niveau de direction pour que, par effet magique, les décisions qu'on prend puissent s'appliquer. Il faut construire cette espèce d'autorité qui fait qu'à un moment ou à un autre, ce qui va être dit va se traduire concrètement dans la vie de l'institution.
Oui.
Alors, je rejoins tout à fait ce qu'il a dit aussi sur le fait que les professionnels nous apprennent notre métier de direction, quelle que soit d'ailleurs leur fonction, puisque moi, j'ai rejoint un foyer dans lequel on était une très jeune équipe, des éducateurs tout juste sorti de fonction, puisque moi, je suis allée à Tourcoing. Il y avait assez peu de volontaires. Donc, avec moi, des éducateurs sortis de promotion.
Et très peu de différence d'âge avec les jeunes.
Voilà, très peu de différence d'âge. Par contre, il y avait une secrétaire et des ouvriers professionnels, un cuisinier, je me souviens très bien d'eux, qui étaient par contre des professionnels extrêmement anciens, avec d'ailleurs des tensions dans les équipes, mais des tensions aussi productives dans la construction d'un travail collectif tout à fait positif. Ces tensions-là, elles étaient très intéressantes. Et je dis dès à présent quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que j'ai appris à ce moment-là, et que j'ai peu retrouvé ensuite, mais qui probablement est très lié au monde de la justice dans lequel on intervient, qui n'est pas qu'un monde de texte, comme le disait Bertrand, c'est cette question du contradictoire, de la capacité qu'on doit avoir à accueillir des points de vue très différents du sien pour pouvoir prendre les moins mauvaises décisions possibles. Et c'est dans ces années-là, et j'en tire encore bénéfice aujourd'hui, c'est dans ces années-là que j'ai appris que le fait de ne pas être d'accord tous les uns avec les autres, de ne pas voir de la même manière les jeunes, de ne pas avoir le même point de vue sur le service, ce n'était pas un problème, c'était plutôt une chance, à condition qu'on soit capable de dépasser ces regards différents, et surtout que le directeur, et à l'époque, du coup, j'étais dans cette position, que je sois moi capable,
oui,
de prendre des décisions qui s'imposent à tous. Et donc, c'est ce process de construction de la légitimité qu'évoquait Bertrand tout à l'heure.
Anne Devraise, c'est vrai aussi pour Bertrand Kaczmarek. Il y a les procédures, d'accord. Vous avez appris le contradictoire qui doit être en cohérence avec la justice. Mais quelle légitimité on peut avoir face à des gens qui souffrent et qui connaissent des difficultés, qui ont des enfances fracassées qu'on n'a pas eues, qui ont eu des problèmes d'addiction qu'on n'a pas eues. J'ai dit nous, les personnes encadrant, les juges, les travailleurs sociaux, les avocats, ça pose une difficulté, non, Bertrand Kaczmarek ?
Oui, pour moi, c'est même la difficulté principale, mais je crois que la chance, c'est difficile de dire ça pour les gens qui, évidemment, qui sont enfermés, mais la chance, malgré tout, du milieu pénitentiaire, c'est la durée, c'est-à-dire que peu à peu, en fait, la relation va se construire Et on va se mettre à distance, même si ça mérite hein, d'être réfléchi et d'être éventuellement critiqué, mais on va se mettre à distance de la condamnation, de ce qu'ils ont fait, pour vraiment apprendre en quelque sorte à vivre ensemble. Et on va recommencer à élaborer. Enfin, je sais que par exemple, les premières rencontres étaient extrêmement importantes. La première audience, ça va être pour... Récupérer des affaires qu'ils ont laissées à la fouille ou favoriser un parloir et autres. Et en fait, une fois que c'est dans ces moments-là très utilitaires hein, et puis extrêmement pragmatiques qu'on va poser des jalons en quelque sorte pour que des fois, des mois ou des années après, se joue à un moment une parole beaucoup plus posée, enfin profonde et engageante. Mais la chance, enfin encore une fois, je mets vraiment des guillemets à chance, mais malgré tout, ce qui construit la relation dans le monde pénitentiaire, c'est vraiment une vie commune. C'est-à-dire, on a dans les très très bons souvenirs, même si c'est un peu étonnant de dire ça comme ça, mais c'est d'arpenter les coursives et puis de rentrer dans la cellule d'un détenu, de discuter, d'écouter un morceau de radio, de regarder un morceau de match. Et à partir de là, en fait, c'est là qu'on commence à... Il y a une sorte de reconnaissance réciproque qui fait qu'on pourra alors plus tard engager autre chose. Mais si on part pas de cette espèce de se rassurer en quelque sorte, parce que je pense qu'ils sont inquiets des personnels, mais si on dit la vérité, les personnels sont aussi inquiets des détenus. Et une fois qu'on a réussi en quelque sorte à faire une confiance, en fait, hein, à se prouver qu'on peut avoir confiance, à partir de là, on peut construire quelque chose. Mais la fonction est vraiment insuffisante à ça. Ça, c'est vraiment une certitude.
C'est ce qu'on appelle l'autorité, non, Bertrand Kaczmarek? C'est ça l'autorité d'un professionnel.
En distinguant du pouvoir, oui.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Anne de Vraise, vous reconnaissez dans cette sorte d'apprentissage, de reconnaissance réciproque plus profondément encore entre les jeunes et les éducateurs et bien sûr le directeur?
Oui, j'ai aussi évidemment appris mon métier avec les personnes que j'ai rencontrées, les jeunes, mais aussi leurs parents dans certains cas. Ce qui m'a frappée, sans doute la première chose, étant toute jeune, et pour revenir sur la question que vous posiez, c'est que ces jeunes-là soient toujours vivants. Voilà, avec ce qu'ils avaient traversé, qu'ils soient encore là et toujours vivants, alors qu'ils avaient vécu des violences, des négligences, parfois des actes de barbarie, etc. La plupart étaient auteurs de violences eux-mêmes, hein, mais...
Ça va avec, non? C'est-à-dire que les jeunes ont tendance à reproduire des violences qu'ils ont connues. C'est ce qu'a structuré leur relation, d'ailleurs, malheureusement.
Oui, alors, en sachant que là-dessus, je mettrai une précaution... puisque ensuite on l'évoquera peut-être, hein, mon parcours m'a amené à travailler beaucoup plus largement sur le champ de la protection de l'enfance et pas seulement avec les enfants auteurs d'infractions. Et je me suis rendu compte évidemment que le fait d'avoir été victime de violences graves, de négligences lourdes, ne prédispose évidemment pas à un parcours de transgression. Mais par contre, tous les adolescents que j'ai rencontrés qui étaient auteurs d'infractions, voire mis en cause dans des procédures criminelles, avaient tous vécu des violences graves. Mais évidemment, ils sont très peu nombreux. C'est pas les mêmes volumes de population. Alors ça, c'était quelque chose qui m'a énormément marqué, cette question de la ressource, d'être toujours vivant, d'être toujours là.
Avec une sorte de pulsion de vie.
Oui, et puis pour certains, une grande capacité. J'ai découvert plus tard... que d'ailleurs, le passage à l'acte, même transgressif, même en conflit avec la loi, ces adolescents-là, ils existent d'une manière ou d'une autre au monde, et c'est une force vitale, effectivement, qui les anime. Oui. Et pour revenir sur la question de ce qui marche, de ce qui marche pas, c'est qu'évidemment, cette première prise de conscience... de la violence de leur trajectoire, ça crée d'une certaine manière une forme de sidération. C'est évidemment l'occasion d'une position d'empathie aussi.
Vous vous demandez comment est-ce qu'ils ont pu encaisser tout ça, quoi. Comment est-ce que des jeunes ont pu encaisser autant de violence?
Absolument. Mais alors, pour revenir au fait qu'on était une équipe toute jeune, il y a quand même un énorme intérêt. C'est qu'à la fois, évidemment, on est projeté dans des univers qu'on connaît peu. Il y a une certaine forme de naïveté probablement qui nous anime. Mais ce que j'ai observé, c'est que vu la motivation des équipes, leur envie d'en découdre, il y a aussi évidemment une conviction qu'on peut faire quelque chose, c'est-à-dire on y croit d'une certaine manière. Et le simple fait qu'on y croit, nous, a un effet tout à fait important et intéressant dans la relation avec les jeunes. Des jeunes qui, dans la plupart des cas, ont une conviction profonde qui valent pas grand-chose, en tout cas que ils pourront pas faire grand-chose de cette vie qui est la leur, surtout vu les débuts. Et en réalité, il y a quelque chose de très communicatif dans cette attention qui leur est portée par des adultes, même quand ils sont encore jeunes, et par cette force d'y croire et de croire en leurs capacités. Voilà, à condition de pas se laisser complètement emporter par tout ça et de rester les pieds sur terre, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut porter dans les premières années d'exercice professionnel.
Et Bertrand Kaczmarek, il faut y croire à la prison pour exercer en prison ?
Disons que là, c'est délicat parce qu'il y a quand même un caractère en prison, en tout cas un très ambivalent, c'est que il y a des, on pourrait dire des réussites. En tout cas, il y a des gens pour qui la peine est vraiment utile, enfin, et puis il y a des gens avec qui on va vraiment faire un travail qui va être intéressant, mais je crois qu'il y a une espèce de lame de fond un peu qui sape et contre laquelle il faut résister, c'est que la prison avant tout c'est quand même une sorte de masse, c'est-à-dire quand on travaille dans un établissement, il y a 400, 600 personnes, 600 détenus. Et on va pas rencontrer tout le monde, et on sait bien qu'il y en a quantité qui vont passer un peu comme dans sous une espèce de rouleau compresseur, c'est-à-dire des gens qui vont rentrer pour une courte peine, qu'on va juste voir à l'entrée, à la sortie, et en fait on sait absolument pas ce qui s'est passé au milieu. Donc il y a, pour moi, enfin, ce qui m'a très longtemps travaillé comme impression, c'est vraiment une espèce de tragique, c'est-à-dire il faut absolument essayer de faire le maximum en étant pourtant conscient que d'une certaine manière, pour quantité de cas, on va perdre. Ce qui est terrible, hein,
on ne peut pas avoir des relations.
Il y a quelque chose de réel là-dedans. Et d'un autre côté, on ne peut pas non plus tenir une position, je ne sais pas, abolitionniste en disant il ne faut pas de prison.
Bien sûr.
On rencontre les certaines personnes qui sont dedans, on est tout à fait conscient de la nécessité pour l'ordre public, puis pour protéger les victimes. Donc, on est un peu tiraillé entre les deux, et il y a vraiment quelque chose à travailler de l'ordre d'une sorte d'espérance, mais qui est d'espérance un peu tragique. Puis, je crois, à travers les années, on la mûrit peut-être différemment. Quand on arrive, il y a un côté un peu cheval blanc. Imagine que tout va se régler, tout va se régler parce qu'on est là. Et la question, vraiment, c'est comment tenir sur plus long terme.
Esprit de justice,
Antoine Garapon. Once
Esprit de Justice qui continue sa réflexion, sa présentation des métiers plutôt sociaux, plus proches des personnes dans la justice, avec Bertrand Casmarec de la pénitentiaire, qui a été à la pénitentiaire, et Anne Devrez en ce qui concerne l'enfance. Anne Devrez qui a choisi de nous faire entendre The Greatest par Cat Power. Un mot sur ce choix, Anne Devrez?
Oui, j'ai choisi ce titre parce que, comme on évoquait les métiers de l'éducation et de la justice, voilà, je voulais rendre un hommage à mon époux récemment disparu, qui était un mentor pour moi, un éducateur exemplaire à la Fernandolini, qui ensuite a exercé des fonctions de direction et qui pour moi était le meilleur et le plus grand sur ces questions, qui m'a beaucoup beaucoup appris. Autour des besoins de ses enfants et puis de la position des adultes dans la relation éducative avec ces jeunes.
Oui, parce que Anne Devrez, on a le sentiment souvent d'arriver un peu trop tard, et ça a été votre expérience aussi dans travaillant avec des adolescentes, se dire mais si, pour régler les problèmes de l'adolescence, il faudrait peut-être s'intéresser un peu plus à l'enfance, voire à la petite enfance.
Absolument. J'ai eu la chance, après une dizaine d'années passées au ministère de la Justice, à travailler avec ses équipes, les juges des enfants, à l'accueil d'enfants en danger, mais plus souvent d'adolescents en conflit avec la loi. J'ai eu la chance d'être recrutée par le département du Nord sur les politiques de protection de l'enfance. Et j'ai accepté tout de suite ce challenge parce que je m'étais rendu compte qu'on pouvait éviter un certain nombre de coûts humains, sociaux et même financiers en intervenant beaucoup plus tôt dans la prise en compte des besoins fondamentaux des enfants, en soignant mieux les violences qu'ils ont subies, en les soignant mieux après les violences qu'ils ont subies. Alors, je pense que ces sujets progressent depuis quelques années, mais il faut savoir qu'à la fin des années 90, quand j'ai commencé, c'était souvent à l'occasion de la mise en cause d'un adolescent quand il avait lui-même été violent avec d'autres, que on accédait à la possibilité de le considérer comme victime vis-à-vis des violences que lui-même avait subies dans son enfance.
Voilà. Voilà. Bertrand Casmarec, travailler dans prison, j'imagine, c'est un peu la même difficulté. C'est-à-dire qu'il faut être clair avec la loi. Et on parlait de ces enfants auteurs de violences, ces adolescents auteurs de violences qui peuvent être victimes. C'est souvent le cas des détenus. Ils se sentent victimes de beaucoup de choses, non?
Ben, je crois qu'on pourrait, enfin, c'est délicat de faire des catégories, mais il y a quand même au moins deux catégories que beaucoup de détenus valident eux-mêmes et revendiquent eux-mêmes. Il y a ceux, effectivement, qui sont là un peu parce que ils ont souffert vraiment le calvaire avant et autres. Mais il y a aussi une autre catégorie, et c'est avec eux que c'est délicat. Il y a des espèces de professionnels, c'est-à-dire il y a des gens qui, en fait, assument en quelque sorte la délinquance. Je pense notamment à tout ce qui est autour du trafic de stupéfiants, avec un discours extrêmement lucide en disant, voilà, ça représente tant de centaines de milliers d'euros. En contrepartie, je vais prendre tant de mois ou tant d'années de détention. On fait le calcul, ça se tient. La prison va en général bien se passer. D'ailleurs, ce n'est pas forcément des gens qui s'aiment beaucoup la pagaille à l'intérieur. Mais la difficulté, vraiment, c'est de faire vivre ensemble des gens qui viennent de tragédies terribles et puis d'autres qui, en quelque sorte, continuent absolument à assumer, mais dans une espèce de choix un peu lucide, de rester dans ce type d'activité. Ce qui fait qu'on va avoir des gens que la prison va un peu broyer, qui vont se retrouver à nouveau victimes, que ce soit victimes de la prison, victimes des détenus, et puis d'autres qui, au contraire, vont essayer d'en tirer, vraiment comme l'expression de certains détenus, c'est « je fais ma peine sur un pied », c'est-à-dire en quelque sorte pour la rentabiliser de toutes les manières possibles. Et la difficulté, c'est comment est-ce qu'on s'ajuste au quotidien par rapport à des personnes qui ont vraiment des attitudes et des trajectoires de vie qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres.
J'imagine qu'en plus, le problème d'un directeur de maison d'arrêt, c'est de maintenir l'ordre dans tous les sens du terme. La paix à l'intérieur de la prison et puis un minimum d'harmonie dans la vie collective.
Oui, il a vraiment une des tensions, mais qui à la fois fait la richesse du métier, c'est entre la partie la plus individuelle, donc les audiences individuelles, les entretiens avec les détenus, et d'un autre côté, la question de la sécurité, c'est-à-dire on va gérer l'armement des miradors, les procédures, les fouilles et autres, et on a absolument besoin de tenir les deux, alors que pourtant, quasiment l'une exclut l'autre spontanément, dans les deux missions de la pénitentiaire qui sont... dévolu à la pénitentiaire, on dit c'est la garde et la réinsertion. Bon, le mot est un peu daté pour garde, mais disons sécurité. La sécurité et la réinsertion, comme si les deux allaient ensemble. Mais en fait, c'est très difficile de les faire tenir ensemble. Et c'est face à cette espèce de paradoxe permanent que justement le métier est extrêmement intéressant pour s'il y a des lycéens ou des collégiens qui se posaient la question, parce que vraiment, on va être en tension permanente. On est interdit à la fois de prendre uniquement la position de celui qui va être pro-détenu, je dirais, comme de celui qui va être pro-strictement institution. On est obligé de travailler un peu des deux côtés à la fois, c'est-à-dire de servir l'institution et presque de lutter contre elle dans ses penchants les plus automatiques, en quelque sorte, à produire une espèce d'ordre un peu froid. Mais en sens contraire, si vous n'assurez pas l'ordre, vous voyez immédiatement que ce sont les plus faibles qui payent le prix du désordre.
C'est ça. Anne de Vraise, ces métiers au plus proche des adolescents, on l'a déjà vu d'ailleurs dans ce que vous nous avez dit, on apprend beaucoup. Je crois que c'est une caractéristique, c'est qu'on apprend beaucoup des hommes, de la vie, et on éprouve le besoin de comprendre, de mieux comprendre. Et c'est pour ça que souvent, ça va avec des sciences sociales, avec un certain appétit pour les sciences sociales, Anne de Vraise.
Oui, moi, ce qui m'a passionnée dans ces fonctions, ces différentes fonctions que j'ai exercées depuis plus de 20 ans, mais toujours dans le champ de la protection de l'enfance, c'est que ce sont des missions qui sont nécessairement adossées à des savoirs académiques dans différentes disciplines. Je crois qu'il faut le dire, on a besoin d'avoir des connaissances du cadre juridique dans lequel on intervient, qui doivent être très rigoureuses, très précises, mais c'est pas suffisant, évidemment. On doit mobiliser par ailleurs, dans ces fonctions-là, une sensibilité et une connaissance dans les approches cliniques de savoir en psychologie, en sociologie. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui fait... de ces fonctions, enfin qui en tout cas leur confère un grand intérêt, même au plan intellectuel. C'est-à-dire que, comme Bertrand vient de le dire à l'instant, et même si la logique de l'éducation avec des enfants n'est pas la même que celle de l'enfermement des adultes, dans ses ambivalences et voilà, ces dialectiques qu'elle met en œuvre, n'empêche qu'on est toujours dans de la complexité. Et que parfois les idées reçues sont pas celles qui produisent les résultats les plus intéressants. J'en veux pour preuve évidemment cette espèce d'escalade symétrique dans laquelle nous emmènent souvent les adolescents. Ils posent un acte et on répond un peu plus fort et ils vont un peu plus loin et on pose derrière une sanction un peu plus forte. Et on voit d'ailleurs que c'est pas forcément ce mécanisme qui est toujours le plus favorable pour désamorcer.
C'est ça. C'est ça.
Et en tout cas, c'est pas un mécanisme qui joue positivement dans la sortie de délinquance. On le sait, par les recherches en sociologie aujourd'hui. On sait au contraire que la sortie de délinquance, elle est très progressive et qu'elle passe par d'autres étapes que celle-ci. Et autrement dit, que l'idée toute faite consistant à penser que s'il recommence, c'est parce qu'il n'a pas été assez puni, et ça n'a aucune consistance. Et je ne parle même pas là de débat idéologique, mais ça n'a aucune consistance pratique dans la compréhension effectivement du passage à l'acte d'un adolescent, en tout cas. Dont d'ailleurs, je précise tout de suite, parce que ça fait quand même une différence avec ce qu'évoquait Bertrand tout à l'heure, le fait que assez peu de ces adolescents s'engagent, comme on dit en sociologie, dans des carrières délinquantes à l'âge adulte. Hein. C'est vraiment
c'est souvent des actes isolés.
Des moments de vie, ouais, voilà, de très très lié d'ailleurs au développement de ces enfants. J'évoquais les connaissances en psychologie. C'est extrêmement passionnant de voir ce que les neurosciences viennent confirmer comme étant d'ailleurs des intuitions qui avaient été portées précédemment en psychanalyse. Alors, ou autre, hein, mais qui viennent vraiment confirmer matériellement ces décalages parfois entre une maturité physique, une maturité intellectuelle et puis une maturité émotionnelle.
C'est ça. Et d'ailleurs,
c'est ce décalage-là qui fait
ça. C'est ça. Et qui ont montré d'ailleurs que la maturité vient beaucoup plus tard qu'à 18 ans.
Oui. Sur les courbes de développement, c'est très, très intéressant. Et on voit que des adolescents qui pourtant sont réputés responsables de leurs actes ont très peu de capacité d'inhibition. Et d'autant moins qu'ils ont été vulnérables et qu'ils ont peu de ressources du fait de leur trajectoire vie, du fait qu'ils ont des liens affectifs qui ne sont pas très solides et qu'ils ont peu de choses à perdre bout du compte.
Et d'ailleurs, c'est quand ils trouveront des liens solides, souvent avec un partenaire amoureux, que les choses vont commencer à s'arranger. Mais Bertrand Kaczmarek, vous avez fait un choix qui est singulier. C'est que de la prison, vous êtes allé à la philosophie.
Oui, alors c'est pas du tout par désamour, on pourrait dire, de la pénitentiaire. Enfin, non pas que je veuille vendre des cartes de l'administration pénitentiaire, c'est pas le problème. Mais moi, vraiment, la question s'est posée. En fait, j'adore la philosophie. Et pendant un moment, j'ai réussi à tenir les deux pendant un certain temps. Et en fait, la philosophie était un très, très bon équilibre. Une pratique de la philosophie à côté permettait d'équilibrer ces tensions vraiment qu'on vit, je crois, nécessairement quand on.
Et puis de réfléchir un peu à ce qu'on fait aussi.
Exactement, oui. Puis vraiment de donner une sorte d'équilibre, de reprise. Sauf que, arrivé au bout d'un certain temps, moi, il m'a fallu choisir un peu entre les deux, puisque après, pour des questions familiales et autres. Et donc, moi, j'ai opté pour d'enseigner la philosophie pour pouvoir continuer à la pratiquer. Mais par contre, c'est pour ça que je dis que c'est pas un désamour complet. J'essaye en fait de travailler actuellement. Là, on anime avec des collègues profs de philo. On a un collectif à Marseille qui s'appelle les philosophes publics et on anime par exemple des ateliers avec les surveillants des Baumettes. Et pour essayer justement de rejoindre ça, c'est-à-dire de proposer une parole qui reprend un peu leur pratique. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez et ce que disait Anne juste avant, c'était que le dernier atelier avec les surveillants, ils n'ont cessé de dire, on a remarqué à force que ce qu'ils disaient sans arrêt, c'est qu'ils apprenaient des détenus.
Ah oui.
Ce qui est très étonnant, mais c'est pas du tout l'idée qu'on se fait, c'est absolument pas le discours, je dirais, public. Et pourtant, ils étaient quatre très différents. Et chacun disait que l'intérêt principal du métier, c'était d'apprendre de ces gens qui, s'ils n'avaient pas fait ce métier, ils ne les auraient jamais rencontrés. Donc l'enjeu du coup de la philosophie, c'est d'essayer de proposer les moyens les plus efficaces, en quelque sorte, pour permettre de s'approprier un peu tout ce qu'on apprend. Mais si on ne le retravaille pas, si on ne le reprend pas, il y a des chances que ça soit perdu en quelque sorte.
Alors moi, je pensais que vous alliez dire que vous étiez poussé par l'interrogation sur le sens de la peine, parce que c'est quand même une grande difficulté que tous les professionnels de la justice portent, j'allais dire. C'est qu'il faut faire intégrer on appelle la dimension de la loi, c'est-à-dire faire intégrer quelque chose de l'ordre du commun, du public, de la référence, commune, à des gens qui sont trop en difficulté pour pouvoir la reconnaître. Alors, est-ce que Anne de Vraise, je poserai ensuite la question à Bertrand Kaczmarek sur le sens de la peine, mais est-ce que ça n'a pas été une difficulté? Vous disiez, vous étiez jeune, pas fasciné, mais par les pratiques transgressives. Il y a ça aussi dans les métiers sociaux. Mais en même temps, il faut expliquer la loi, il faut incarner la loi. L'éducateur, il incarne un peu la loi.
Alors, très clairement, moi j'ai découvert la nécessité et tout l'intérêt d'un appui sur un cadre clair et posé, et qui soit clair et posé pour tout le monde. Et donc le cadre judiciaire, en tout cas dans l'exercice des fonctions très complexes que j'ai pu exercer dans toute ma carrière, ça a plutôt été un appui qu'une contrainte en réalité. Ça veut pas dire que
c'est cadré.
Ce cadre clair, il est pour tous, et qu'il n'y a pas un vrai enjeu et un vrai défi en termes d'appropriation et d'explication. Je dis pas ça. Je dis juste que De travailler avec ce cadre, ça fait qu'on n'est pas dans le face-à-face, effectivement. Parce que tout à l'heure, j'ai évoqué, je crois, avec beaucoup de conviction, l'élan, l'enthousiasme, le souci d'y croire qui nous anime dans ces métiers. Mais il faut aussi faire très attention à ce qu'on y fait. Et cette question d'un adossement à un cadre, oui, qui soit un cadre sécurisant, contenant pour tous, qui dise qui est interdit et autorisé, c'est quelque chose de tout à fait fondamental pour tout, pour pouvoir
travailler. Il faut maîtriser ses affects. C'est ça la difficulté de ces métiers de la relation. Alors, ces métiers qui ont la relation pour matière. Il faut maîtriser ses affects.
Il faut maîtriser ses affects, mais ne pas s'empêcher d'en avoir. Je voudrais vous dire deux choses rapidement, Antoine, là-dessus. D'abord, pendant des années, on nous a fait croire, c'était d'ailleurs un sujet qui était enseigné dans les écoles de travail social, que voilà, il était impératif de respecter, alors c'est un dogme, un principe de bonne distance.
Oui, oui. Juste distance,
dans une interprétation oui, d'ailleurs oui, un peu sauvage hein, oui, d'un thème de la psychanalyse, puisque en gros, cette bonne distance était plutôt pensée dans les institutions ou en formation comme une injonction à ne pas s'attacher, à ne oui, pas investir la relation affective.
Et c'est remis en cause aujourd'hui.
Oui, complètement, parce que c'est une erreur fondamentale. Là, j'évoque évidemment le sujet de l'éducation,
oui,
des besoins des enfants. Un travailleur social, un professionnel d'éducation, un éducateur ne peut pas, et alors a fortiori quand il s'agit d'un accueillant, d'un assistant familial ou de professionnels qui travaillent en établissement, ne peut pas ne pas répondre aux besoins de sécurité et de sécurité affective des enfants. Et donc, évidemment, il doit s'exposer, se dévoiler. Il doit s'exposer au risque de la rencontre avec ses enfants. Et ça impose évidemment ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt une juste proximité, oui, qu'une bonne distance. Ça, c'est vraiment la première chose que je voudrais dire. Mais ça n'exclut en rien l'adossement à un cadre. Ce oui, cadre, ça peut être le cadre judiciaire, mais aussi c'est le cadre de travail. C'est cette fonction instituante qu'on retrouve oui, dans les organisations, les équipes, le travail collectif, la pluridisciplinarité des interventions. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais il y a une deuxième chose que je voudrais dire, à l'appui de votre question, c'est que le cadre, ça n'est pas qu'un cadre pénal. Et souvent, moi je suis frappée, et en particulier si cette émission devait avoir une fonction pédagogique, moi, c'est vraiment quelque chose que je dis maintenant et que je répète depuis des années. La justice, ça n'est pas que le pénal. Or,
oui,
on constate souvent qu'on confond judiciaire et pénal.
Oui.
On parle parfois de judiciarisation des situations pour parler de la pénalisation des situations. C'est évidemment.
Alors, c'est quoi ce qui n'est pas pénal, Anne de Vrez ?
Eh ben, c'est la dimension civile. En l'occurrence, dans
la protection,
dans la justice des enfants, il y a vraiment les deux pieds de cette justice et il faut vraiment faire attention à les prendre en compte tous les deux. Et quand on les a pas pris en compte tous les deux, on a pu commettre de graves erreurs. Ça a été le cas dans des affaires de maltraitance grave à enfants hein, qui ont été très médiatisées. Et je voudrais du coup bien insister sur le fait que, y compris dans le champ civil, ce qu'on appelle l'assistance éducative dans la justice des mineurs, qui est aussi hein, le rôle du juge des enfants, on dit ce qui est autorisé et ce qui est interdit.
Oui.
Voilà, c'est important aussi c'est de préciser que ça n'est pas le registre seulement du pénal.
Alors,
que de pouvoir dire ce qui est autorisé et interdit.
Alors je me retourne maintenant dans le registre du pénal, vers Bertrand Kaczmarek, sur le sens de la peine. Est-ce que ça reste une énigme, le sens de la peine, non ?
Ouais, je pense qu'on évolue vraiment sur le... Quand je dis « on », c'est chaque personnel hein, évolue sur toute sa carrière à peu près sur cette question et qu'on n'aboutit jamais à une solution satisfaisante. Alors moi, je voudrais juste pointer deux types de réponses. La première, c'est les surveillants, là encore, qui l'évoquaient il y a quelques jours. C'est vraiment l'idée qu'un... C'est pas uniquement un cadre de sécurité, mais vraiment un cadre de vie. Et il donnait comme exemple le fait que la prison, ça allait être utile si on apprenait aux jeunes, par exemple, à ne pas se rendre à la visioconférence devant le magistrat en basket, en survêtement, à enlever sa casquette, etc. Donc, il y a quelque chose de l'ordre un peu de... On apprend la règle autour de la vie commune. Et ça, je pense que tout le monde sera assez vite d'accord avec, sauf que la contrepartie extrêmement difficile, c'est que contrairement à l'idée qu'on a, en fait, la prison est un cadre beaucoup plus souple qu'on ne veut bien le dire, et que notamment la surpopulation...
C'est-à-dire vraiment, ouais.
Ben, comme en fait, il y a beaucoup plus de détenus que de, en général, que de places, Et comme on peut pas, et c'est très bien, mais on peut pas guider les gens et les dicter au doigt et à l'œil. Et en fait, il y a énormément de plages d'une espèce d'abandon. Je pense aux cours de promenade, hein, on met 60-70 personnes tous ensemble sur une cour, et puis on s'assure à l'extérieur qu'il n'y ait pas de gros débordements, mais à l'intérieur, sur les règles internes entre les personnes, en fait, la prison ne va pas intervenir. En fait, on est beaucoup moins puissant. Et ça, je crois que c'est une expérience qu'on fait quand on rentre dans la pénitentiaire. L'institution est beaucoup moins puissante qu'elle ne le laisse entendre. En fait, la vie des détenus échappe quand même largement à l'emprise de l'institution. Pour le meilleur, ça évite de dresser les gens, et pour le pire, puisqu'en quelque sorte, on pourrait dire, ça les abandonne. Mais au final, et au fur et à mesure que les années avancent, et vraiment pour rejoindre mais absolument ce qu'a dit Anne juste avant, c'est je crois moi que il n'y a de sens de la peine qu'à travers la relation qui est instituée entre les intervenants et les personnels et les personnes détenues. Et en fait, quand on travaille.
Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille, qui sera l'objet de mon choix. Garogory! Mais par malheur, si le gorille, au jeu de l'amour, vaut son prix, on sait qu'en revanche, il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogory! La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu, car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogory!
Voilà, toujours esprit de justice qui réfléchit sur les métiers sociaux de la justice avec Anne de Vraise pour la petite enfance et Bertrand Kaczmarek pour la pénitentiaire. Bertrand Kaczmarek qui nous a fait entendre cette chanson de Brassens qui vous a coupé la parole d'ailleurs, j'en suis navré Bertrand Kaczmarek. Pourquoi ce choix?
Ouais, c'est surtout pour le final quand... C'est pas propre au juge, je crois, c'est vraiment une expérience des personnels. C'est on ne participe pas à ce qu'on impose, en fait. On vient infliger aux gens une peine, et je crois vraiment que c'est nécessaire, et pourtant, on est absolument vierge, en quelque sorte, de ça. C'est-à-dire, que se passerait-il si nous, on le subissait? Et je pense que c'est pas du tout une question personnelle. Hein. Je crois que tous ceux qui y travaillent [S2] Oui. [S1] Se font souvent cette projection en se disant, mais que se passerait-il si moi, j'étais de l'autre côté des barreaux? Et en fait, il n'y a pas de réponse à cette question. Donc, c'était pour [S2] Oui. [S1] Essayer de pointer, enfin, je trouve, Brassens le fait de manière formidable, mais d'essayer de garder en tête le fait qu'il y a une nécessité de cette peine, et pourtant, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, une sorte d'illégitimité permanente parce que j'inflige quelque chose dont je n'ai aucune expérience personnelle.
Oui, mais ça, c'est le secret même de l'acte de juger, ce que vous dites, Bertrand Kaczmarek, pour juger, c'est quoi, beaucoup l'ont dit, et je pense notamment Mauriac insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que pour juger, il faut être capable de se mettre à la place d'autrui, et ce n'est que uniquement quand on a été capable de faire cet exercice de pensée qu'on n'arrivera jamais complètement à faire, c'est la condition pour un jugement équitable. Vous avez eu ce sentiment-là aussi, Anne de Vraise, cette difficulté et cette nécessité en même temps de se mettre à la place de ces jeunes qui ont vécu des choses terribles pour beaucoup d'entre eux?
Je dirais que ça me paraît difficile de se mettre à leur place. Par contre, s'exercer à cette souplesse qui est de pouvoir considérer qu'on ne reçoit pas une information, qu'on ne vit pas une expérience de la même manière en fonction de ce qui a été notre expérience précédente. Ça, c'est très important de se le rappeler. Et je dois dire que moi-même, j'en ai joué avec les jeunes dans la relation éducative, y compris d'ailleurs en leur renvoyant que si certes je n'avais pas connu ce qu'ils avaient vécu, parce que souvent quand même ils nous le renvoient, eux non plus, ils ne savaient pas précisément ce que moi-même j'avais vécu, ce que j'avais connu. Et je pense qu'il faut se forcer à une espèce de souplesse, parce que c'est la rigidification des positions qui fait la violence institutionnelle et à tous les niveaux. Je pense que certains magistrats sont pas suffisamment souples dans cette approche-là et ont certaines formes de rigidité. Moi, je suis très frappée, pour le coup, dans mes premières années, d'avoir encore le souvenir très très précis de jeux de rôle qui étaient organisés avec les jeunes délinquants, les éducateurs et d'autres membres du personnel, dans lesquels justement, alors même que les jeunes étaient mis en cause, hein, parfois pour des faits très graves, on mettait en scène effectivement un tribunal judiciaire avec le rôle de l'avocat, du procureur, du magistrat, et les jeunes eux-mêmes essayaient de jouer ces différents rôles. Et c'est très, 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 très intéressant de voir comment ils se positionnent, de voir lesquels sont capables d'être tour à tour dans le rôle d'une victime, d'un témoin, mais aussi d'un magistrat. Et alors, ce que je retiens quand même de cette expérience, c'est qu'ils étaient terriblement intransigeants. Il aurait fallu leur couper la tête à tous, et les peines étaient extrêmement dures.
Alors, bien sûr, Bertrand Casmarec, on dit souvent qu'il n'y a pas plus conservateur, voire réactionnaire qu'un truand.
Ah oui, ça c'est avéré. Enfin, en tout cas, dans les discours, les discours sont extrêmement virulents, extrêmement vifs. Et d'ailleurs, aux dernières élections, enfin, on avait les résultats des dernières élections. On voyait que le vote qui ont été organisés en détention pour la première fois, la participation a été assez élevée. En fait, les résultats des partis de certains partis extrêmes étaient quand même très très forts.
Vous aussi, vous avez Bertrand Casamarec, vous avez travaillé sur le spectacle en prison, comme le spectacle comme un moyen de se mettre à distance précisément, de se mettre à distance et de se voir à travers un rôle.
En fait, sous deux expériences, la première, c'est les ateliers qu'on essaye de mettre en place, c'est-à-dire pour que les détenus jouent eux-mêmes. Et là, vraiment, il se passe, enfin, je pense notamment aux ateliers que mène Olivier Py, par exemple, au CD du Pontet. Mais en fait, faire jouer des rôles tels que Macbeth, enfin, des rôles sanglants, par des gens qui eux-mêmes ont versé le sang, en fait, il s'opère quelque chose qui est assez prodigieux. Et si les uns les autres peuvent regarder, il y a un film sur une expérience en Italie, dans un centre de détention, avec des gens de la mafia qui jouent justement Shakespeare. Et le film s'appelle Cesare. Et ça donne vraiment à voir ça, c'est-à-dire que petit à petit, en fait, on a du mal à relire sa propre histoire quand on entend les faits eux-mêmes. Et vis-à-vis du tribunal, en quelque sorte, on n'est jamais coupable. Enfin, il y a toujours plein de tactiques, en quelque sorte, pour le mettre à distance. Mais par contre, quand on commence à endosser le rôle officiellement d'un autre, là, on commence à opérer quelque chose sur sa propre, en lecture de sa propre trajectoire. Et puis le deuxième, c'est effectivement, je participe à une troupe de théâtre et on va jouer devant les détenus pour justement essayer de, là encore, de vivre quelque chose, essayer de construire une sorte d'expérience commune pour faire renvoyer à ce que disait Anne tout à l'heure sur le fait que sans affect, il est absolument, mais je crois vraiment impossible que quelque chose en termes de justice se passe. C'est ça. Je crois qu'il y a une réflexion vraiment à mener de manière collective. La justice, ça ne peut pas être l'absence d'affect.
C'est ça. Alors, je constate que dans cet exercice d'imagination d'autrui, qui est si important pour rendre la justice, qui est si important dans le travail social, vous n'avez pas parlé de l'éloignement culturel, c'est-à-dire d'avoir des jeunes qui débarquent, je pense notamment aux fameux mineurs non accompagnés, d'une autre culture, des étrangers qui sont encore plus décalés dans ces institutions. Je sais pas si ça... C'est un problème, Anne de Vraise ?
Alors, évidemment, les jeunes gens qui nous arrivent d'un peu partout dans le monde, tout seuls, donc mineurs non accompagnés, ça veut dire sans représentant légal sur le territoire, eh bien, c'est pour nous, dans la mise en œuvre des politiques publiques, un groupe bien identifié, parce qu'on a dû faire face à leur accueil, et puis dans des volumes très importants, hein, pour le département du Nord... On a dû créer 800 places en moins de 2 ans pour accueillir ces enfants. Mais par contre, effectivement, on a des profils de jeunes et d'enfants qui sont très, très divers. Et notamment, quand on parle de décalage culturel, on a pu accueillir dans les institutions de protection de l'enfance qui sont quand même encore aujourd'hui très réservées aux enfants pauvres, ce qui pose tout un tas de questions. Mais on a accueilli des enfants qui venaient de l'autre bout du monde, qui étaient seuls sur le territoire français et qui avaient des acquis culturels qui étaient bien différents de ceux des enfants gravement négligés qu'on rencontrait dans nos institutions de protection de l'enfance. Alors ça a été un choc très positif pour le coup. Mais parmi les MNA, on a aussi des enfants des bidonvilles, des enfants des rues, victimes des réseaux de traite et qui là sont vraiment très démunis en termes de ressources, très exploités, à la fois d'ailleurs dans les réseaux de prostitution, mais aussi de délinquance forcée, où on retrouve des caractéristiques qui sont très proches en fait de certains enfants qui ont été très négligés et enrôlés aussi de fait dans certaines formes d'emprise et de traite dans les systèmes plus classiques de l'aide sociale à l'enfance.
Alors, il y a beaucoup de choses à dire, comme les auditeurs s'en rendent compte, mais je voudrais qu'on consacre les quelques minutes qui nous restent à l'avenir, parce que l'avenir de ces professions, et est-ce qu'on peut garder la foi, la pêche, si vous passez l'expression, tout au long d'une carrière, c'est-à-dire que la difficulté peut-être de ces fonctions, c'est qu'elles sont passionnantes, comme on le voit, elles sont très très impliquantes, effectivement, on apprend énormément des autres, mais il faut pouvoir tenir la longueur, Bertrand Kaczmarek. Et d'ailleurs, peut-être que c'est pour ça que vous êtes parti faire un petit détour par la philo.
Oui, je crois qu'il y a vraiment à la fois il y a de l'espoir, c'est pas juste pour être positif par principe, mais en même temps il faut être conscient des risques. L'espoir, à mon avis, moi, c'est que ça fait une vingtaine d'années à peu près que la pénitentiaire a fait un effort énorme autour justement du droit dont on parlait tout à l'heure, et maintenant la question c'est vraiment d'inventer en quelque sorte qu'est-ce qui va se vivre en prison, qu'est-ce qui va se dire, et donc si des personnes sont tentées par la pénitentiaire, l'enjeu c'est vraiment qu'est-ce que je vais pouvoir investir justement de ma subjectivité, de ma personnalité, qu'est-ce que je vais pouvoir instaurer si je deviens directeur comme espace de parole entre les surveillants et les détenus et avec éventuellement les victimes, la justice restauratrice ou des intervenants extérieurs. Donc là, il y a vraiment une espèce de, je crois, d'appel, enfin de responsabilité à venir empêcher que la prison commence en quelque sorte à se refermer sur une espèce de coquille procédurale. Mais de l'autre côté, je pense qu'il faut quand même être lucide sur le fait que la pénitentiaire, c'est vraiment je vais pas faire pleurer, mais c'est un peu la mal-aimée. Oui. C'est-à-dire que quand il faut couper dans les budgets, c'est les premiers budgets qu'on coupe parce que ça choque personne, qu'on donne moins à ceux qui ont commis des actes répréhensibles. Et en fait, c'est quand même être prêt à travailler dans des conditions difficiles, dans des conditions matérielles délicates. Mais paradoxalement, cette espèce de, on pourrait presque dire de misère, enfin en tout cas de grande pauvreté, laisse une certaine liberté au personnel et notamment au cadre, puisque comme on ne peut pas créatif. Donner grand-chose, il y a quand même beaucoup à inventer. Et je crois qu'il y a une très très belle, c'est une très belle fonction à expérimenter.
Alors Anne Devray, ça sera le mot de la fin. Et vous tenez les cordons de la bourse. Alors donc s'il n'y a pas assez d'argent, c'est de votre faute alors.
Non, alors moi je tiens pas les cordons de la bourse, c'est les élus, et puis en plus tout ça est très 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 contraint malheureusement. Par contre, ma responsabilité c'est d'essayer d'agir au mieux avec la bourse et de conseiller au mieux les politiques publiques probablement. Alors je rejoins l'idée d'un risque dans la durée, moi je suis tout à fait attentive à ça pour moi-même et pour mes collaborateurs depuis toutes ces années. Je pense que le risque d'épuisement, il est réel. Et au-delà de ce risque, quelque chose dont on parle peu, c'est un risque d'habituation, de s'habituer à des choses qui doivent continuer de nous révolter, doivent continuer de nous mobiliser et qu'on doit continuer de trouver inacceptable. Mais le corps humain, il est bien fait et il a affaire à des mécanismes d'adaptation, c'est-à-dire que pour pas trop souffrir parfois, et ben effectivement, on s'adapte à certaines choses et ça, c'est un risque important pour nos métiers.
Est-ce que ça veut pas dire qu'il faudrait, pour les métiers sociaux, prévoir beaucoup plus de mobilité que pour d'autres fonctions
Alors, ça dépend.
10 secondes,
ça dépend parce que je partage cette idée comme une question, mais il n'y a pas de réponse toute faite parce que je partage aussi l'idée de Bertrand sur le fait que ces métiers-là, notamment les métiers de l'éducation sont aussi des espaces de créativité sans cesse renouvelés, les métiers de l'éducation et du soin. Et donc, on peut se renouveler parfois y compris quand on ne change pas de fonction. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai traversé différentes institutions et différentes fonctions. Voilà. Et je vois bien que d'autres expérimentent d'autres choses.
Eh bien, merci beaucoup, Anne de Vraise. Merci, Bertrand Kaczmarek, pour vos témoignages. Esprit de justice avec Anne de Vraise et Bertrand Kaczmarek, comme je viens de le dire, Jeanne Delecroix, Sandrine Chaperon, Léa Kamleun Fosso, Baptiste Lénard, Anne-Pascale Déby, Antoine Garapon. Et dans quelques instants, en français dans le texte.